Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Et c'est l'heure du journal de la culture. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Crazy Philippe Vandel.
I'm not so crazy. On commence ce journal Hélène par de nouvelles activités qui se mettent en place pour ce confinement.
Et oui Philippe, avec le hashtag Muséum chez vous, ces trois mots vous ouvrent les portes de tout ce qui est géré par le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris, le Jardin des Plantes et le Zoo de Vincennes entre autres. Alors une totale immersion possible de chez vous. Si vous allez dans la rubrique coulisses, il est possible d'admirer des moments extrêmement rares comme les premières sorties des pandas rouges.
Oh
par
non,
exemple,
trop mignon.
Leur vaccination et regardez de très près les singes en voie de disparition. Et puis surtout, la zoothèque et tous les trésors du muséum avec près de 8 millions de spécimens. Alors, une visite virtuelle est également possible, mais si vous avez le casque adéquat.
Ah oui.
Voilà. Et concernant le zoo de Vincennes, vous pouvez vous rendre sur sa chaîne YouTube. Une dizaine de vidéos est à disposition avec tous les animaux présents dans ce lieu emblématique et des coloriages. Et des cahiers de jeux sont également à télécharger.
Et puis si je ne me trompe pas, ou si je ne m'abuse plus comme on dit, le zoo de Vincennes, ils ne veulent plus qu'on les appelle le zoo de Vincennes. Je crois que c'est le zoo de Paris. Si vous tapez zoo de Vincennes, vous risquez de ne pas les trouver. Plusieurs monuments nationaux, Hélène, se mobilisent pour le personnel soignant.
La Bibliothèque nationale de France, le Louvre, les Archives nationales, Versailles ou encore la Bibliothèque de Strasbourg, tous ont fouillé leurs réserves et ateliers de restauration afin de récupérer des masques et des gants pour les distribuer aux hôpitaux, aux casernes de pompiers, dans les centres de détention. Par exemple, des masques en parfait état se trouvaient dans des cartons de la BNF. Vous savez, ils avaient été achetés lors de la grippe aviaire à H1N1 en 2009.
À l'époque, on s'était moqué de Roselyne Bachelot. On avait dit qu'elle avait fait trop de stock.
Ouais. On a rassemblé 500, la Bibliothèque de Strasbourg 300. Le Mobilier National, quant à lui, a récupéré 6500 masques pour l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Et puis 12800 paires de gants ont été versés à l'Agence Régionale de la Santé qui s'est chargée ensuite de les répartir. Et je rappelle quand même que près de 8 millions de masques sont produits par ailleurs chaque année en France.
Voilà, mais on est plus de 66 millions, donc je ne sais pas si ça fait beaucoup. On va continuer avec le concert à la maison aux États-Unis présenté par Elton John. Vous avez parlé de ce concert la semaine dernière. Il a eu lieu dimanche soir.
Et oui Philippe, avec Billie Eilish, Lady Gaga, Green Day, Alicia Keys ou encore la diva Mariah Carey, un concert géant en direct du salon de chaque artiste et de la cuisine d'Elton
John.
Attends,
juste un mot, c'est grand la cuisine d'Elton John, ça doit faire, ça doit faire un terrain de foot.
C'est ça, voilà. Moi je préfère mes gâteaux yaourt dans la cuisine d'Elton John.
Non,
j'aurais
pas vos
beaucoup
gâteaux.
De place.
Bon, continuons.
A duré une heure, suivi par plus de 8 millions de téléspectateurs. Alors un événement avant tout caritatif. La parole a aussi été donnée aux professionnels de santé dans l'émission. Et puis surtout, l'appel aux dons a permis de récolter près de 8 millions de dollars. Alors je vous cite juste la phrase d'Elton John au tout début de la soirée. Je vous la lis. « Laissez-moi vous dire de ce qui nous réunit, toute la bonté et la générosité autour du monde. Il y a des docteurs, des infirmières et des scientifiques en première ligne. » Ils sont la preuve vivante que la plupart des super-héros ne portent pas de cap.
Et vous connaissez la phrase géniale au sujet de Superman ?
Non, allez-y, Philippe.
Si Superman est si fort, pourquoi est-ce qu'il met son slip par-dessus son pantalon ? Tout à fait autre
Merci.
Chose, de nouvelles annulations suite à l'épidémie. Cette fois, c'est au tour du Salon de la musique.
Appelé le Modem, il a lieu chaque année à Cannes et il rassemble entre 4000 et 5000 professionnels de la musique. Il devait se dérouler du 2 au 5 juin. Et le directeur de la manifestation, Alexandre Degnaud, s'est exprimé en affirmant « Étant donné l'incertitude qui entoure l'évolution du virus et les inquiétudes des entreprises quant à la sécurité de leur personnel, il n'est pas possible de tenir le Midem. » Alors le congrès sera quand même ouvert aux participants sur Internet. Il y aura des conférences, présentations en direct, des possibilités d'échanges. La prochaine édition sur place donc à Cannes aura lieu en 2021 du 1er au 4 juin. Et concernant le Festival de Cannes de cinéma, le report de son édition 2020, fin juin, début juillet, est toujours en réflexion.
Le Festival de la musique à Cannes, c'est le Midem, hein, c'est pas le Modem.
Oui, j'ai dit Midem.
Ouais, d'accord. On ferme
j'ai dit le Modem.
Vous avez dit Modem au début
Midem.
Et Midem à la fin. Donc voilà, en tout cas, c'est le Midem. On ferme cette page du coronavirus avec un sourire.
Oui, Philippe, une petite information avec de l'humour, signé le chanteur James Blunt. Depuis le début du confinement, beaucoup d'artistes réalisent des lives sur les réseaux sociaux. On en a beaucoup parlé, artistes français, internationaux. Alors James Blunt s'est exprimé sur Twitter concernant cette initiative. Il a déclaré « Alors que de nombreux artistes donnent des mini-concerts depuis chez eux pendant le confinement, j'ai décidé de vous rendre service à tous et de ne pas le faire. » Voilà qui dit.
C'est drôle, c'est bien.
Donc, pas de live pour le chanteur. En revanche, je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux puisqu'il est assez drôle quand même.
Voilà. Et puis vous qui parlez parfaitement anglais, ça doit être absolument formidable à suivre. Merci beaucoup Hélène Manarino. À demain. Nous, avant de retrouver Eric Ruff, l'administrateur général de la Comédie Française Musique, on va écouter Dua Lipa avec Don't Start Now. Ben, si, justement, on start now. Ce son de basse, ça m'a lavé les oreilles. C'était Dua Lipa avec Don't Start Now sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
La comédie continue, point d'exclamation. C'est le nom de la première chaîne en ligne lancée lundi par la Comédie Française, la plus vieille institution théâtrale en France. Bonjour Eric Ruff.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes comédien, metteur en scène. Vous êtes surtout l'administrateur de la Comédie Française depuis 2014, autrement dit le boss. Donc, en quelque sorte, faites un métier que vous n'auriez jamais imaginé faire. Vous êtes devenu patron de chaîne. Alors, avant de savoir ce que vous allez en faire, quel effet ça fait d'être patron de chaîne ?
Alors, étant donné mon niveau de geekitude, c'est vraiment, je serais tombé de ma chaise si on m'avait annoncé ça un jour. Je fais des progrès formidables. Fort heureusement, je suis entouré dans les services de la Comédie Française par des gens qui maîtrisent très bien ces outils-là. Il est vrai que depuis quelques jours, depuis quelques semaines, un peu comme tout le monde, je fais des progrès à pas de géant. Mais alors vraiment, je n'aurais jamais cru ça.
Voilà,
mon premier métier est vraiment de faire du théâtre en vis-à-vis. Là, c'est différent, mais c'est bien.
Et vous excusez pas, moi j'ai connu des patrons de presse qui ne savaient pas taper sur une machine à écrire. Vous êtes...
Ben voilà, ça c'est bon. J'ai pris des cours de dactylo quand j'étais en en troisième.
Alors, la comédie continue, ça a démarré lundi. Les horaires, oui, c'est à partir de 16h jusqu'à la fin de soirée. Qu'est-ce qu'on peut voir à l'antenne? Il y a tellement de choses, par quoi vous voulez commencer?
Juste vous dire, le principe est un petit peu double. Il y a deux trésors à la comédie française. Il y a le répertoire filmé, toutes les captations que nous avons. Il y a 10 000 titres à peu près, donc c'est d'une richesse absolue. Il y a beaucoup de perles du répertoire. 10 000, absolument, ouais, ouais.
Incroyable.
10 000 dans toutes les captations audiovisuelles que nous avons depuis très longtemps, depuis l'invention du cinéma muet, donc ça remonte très très loin. Et puis, on a des captations assez belles depuis à peu près le début des années 80. Mmh. Donc ça fait longtemps, il y a beaucoup de choses. Et puis l'autre trésor de la comédie française, ben c'est la troupe.
Ouais.
Et puis un acteur, en fait, il ne fait pas de baratin, il ne fait pas de gamme. Il est habitué à un art qui n'est que collectif. Donc là, j'ai 60 acteurs qui sont dans leur confinement et qui ruent dans les brancards et qui ont absolument envie de travailler. La devise du français, c'est « simul et singuli », c'est être ensemble et être soi-même. Là, pour le coup, être soi-même, ça, on est un petit peu obligé actuellement. Donc, on essaye de travailler le « simul », de être ensemble.
Ouais. Alors, par exemple,
il y a des perles. Ouais. Oui, dites-moi.
Par exemple, les comédiens repassent le bac français. J'adore cet intitulé raconté.
Alors, c'est parce qu'on travaille beaucoup avec l'éducation nationale. C'est une de nos missions à la Comédie française. On a 70 conventions, je crois, avec les lycées, les collèges et les universités. Et donc, comme c'est le bac français, comme personne ne sait à quel point ils vont pouvoir le passer ou pas, ils sont en train de travailler un petit peu en solitude, tous les lycéens, on a demandé justement aux professeurs des lycées avec lesquels on travaille de nous donner les textes du programme et on leur demandait en quoi on peut vous aider. Ils nous ont répondu, mais il serait formidable déjà que les comédiens français lisent ces textes-là. Ça éclaire pas mal, une belle lecture. Et puis, on donne un commentaire qui soit justement, pas thèse, antithèse, synthèse, mais un peu plus sensible. Voilà, qui puisse un petit peu digresser là-dessus, donner des points de vue. Par exemple, Loïc Corbery a joué Perdican dans On ne badine pas avec l'amour.
Ouais.
Et le monologue de Perdican est indétruit. Alors, savoir ce que Loïc peut en penser après l'avoir joué une soixantaine de fois, c'est intéressant. Alors, ça panique totalement la troupe, cette chose-là, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont fui l'école pour être acteurs.
C'est vrai?
Moi, je pensais que qu'ils n'avaient pas des moyens. Si, il y en a plein. Mais
je pensais que t'étais tous des littéraires et des très bons élèves.
Eh ben non, pas du tout. Enfin, alors peut-être, mais certains ont Coralie Zonerou qui s'y est penchée en première. C'est elle qui a ouvert le feu. Ma Coralie m'a avoué, ce que je ne savais pas du tout, qu'elle n'avait pas le bac.
D'accord.
Donc justement, Coralie a passé son bac français, elle ne l'a pas repassé. Pour
c'est super.
Coup, je dis, mais c'est exactement pour toi. Voilà.
C'est quoi, Eric Ruff, c'est super de donner l'info. Les gens qui ne le savaient pas, maintenant, ils le savent grâce à Europe 1. Il y a de la promo.
J'ai d'autres dossiers comme ça.
Non, ne les sortez pas. À 16h05, à la programmation scolaire, c'est quoi?
D'abord, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les comédiens passent le bac. Et puis, il y a aussi, alors on est en période d'orientation aussi. Il y a beaucoup de nos jeunes qui peuvent choisir souvent un lycée, une spécialisation après le bac. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Il y a à peu près 70 métiers à la Comédie française sur 400 personnes. Donc, on fait, c'est un vers de Racine qui s'appelle « Où suis-je, que je fais, que dois-je faire encore ?» On le connaît bien, donc c'est exactement l'état de certains de nos jeunes gens qui se demandent un petit peu par où aller. Et donc, j'ai ouvert le bal, moi, sur administrateur de la Comédie française, n'ayant absolument jamais fait aucune école d'administration, évidemment. Donc, ça peut rassurer certains, donner des idées à d'autres. Et puis, tous les métiers de la Comédie française, qu'ils soient techniques, qu'ils soient administratifs, qu'ils soient comptables, qu'ils soient artistiques, on va y passer. Donc, les chefs de service, les directeurs sont interrogés sur leur parcours et la réalité de leur métier.
Alors, il y a mille choses, je ne peux pas tout citer. Il y a un lever de rideau tous les jours. Un lever de rideau, c'est quoi? C'est une grande pièce, c'est ça, ce que vous appelez un lever de rideau?
Alors, il y a deux levées de rideau. Il y a 18h30 qui correspond à l'horaire qu'on a au studio théâtre.
Ouais.
Alors ça, ou c'est ce qu'on appelle des monologues. On a fait pas mal de monologues, ce qu'on appelle des seuls en scène. Il y a des spectacles pour enfants aussi, qu'on a fait beaucoup au studio. Il y a des cabarets aussi. Il y a
Les trois petits cochons, c'est un spectacle pour enfants ou c'est un peu osé à 18h30?
C'est un spectacle pour enfants. Sinon, on le mettrait beaucoup plus tard. Non, c'est à 18h30, c'est pour les enfants. C'est vraiment le compte, pour le coup. Et puis le soir, il y a des levées de rideaux sur les grandes œuvres du répertoire. Hier, c'était Les Trois Sœurs par Alain Françon. Ce soir, c'est Le Misanthrope de Clément Hervé-Léger. Samedi, par exemple, voilà, ça fait une sorte de perle, parce que, pas forcément pour sa qualité, enfin j'espère, je peux pas en parler, c'est moi qui l'ai mis en scène, c'était le père Gunt, mais en fait on l'a joué, on l'a monté au Grand Palais il y a plus de 10 ans, et puis on n'a jamais pu le rejouer parce qu'on l'a joué que 28 fois. Ouais. Et ce spectacle a été couronné de prix, et puis ensuite on n'a pas pu puisqu'on a, on n'a jamais trouvé le contexte pour le reprendre, donc on est absolument ravis de pouvoir le présenter. Voilà, ça fait partie des perles de Jean, la Bérénice de Gruber, la semaine prochaine. Ça c'est voilà, ça pour le coup c'est un trésor, parce qu'on dit que sur la mise en scène de Racine, il y a un avant et un après Gruber. Ça a changé totalement la pensée sur cet auteur.
Je vous interromps parce qu'il nous reste 2 minutes et je voulais juste qu'on entende un son. Vous faites des monologues à 18h30, ça sera vendredi. Il y aura un spectacle autour de Pierre Desproges. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. C'est le titre, extrait.
Un critique de film dont je tairai le nom, afin qu'il n'émerge point du légitime anonymat où le maintient son indigence, écrivait dans un hebdomadaire dans lequel, de crainte qu'il n'y pourrisse, je n'enfermerai pas mes harengs. Un critique de film, disais-je donc, avant de m'ensabler dans les méandres sournois de mes aigreurs égarés entre deux virgules si éloignées du début de ma phrase que voilà-t-il pas que je ne sais plus de quoi je cause.
On arrête ici parce qu'avec Desproges, les phrases font 5 minutes. Et aussi, on va vous voir, Éric Ruff. Vous allez jouer Jacques Brel, Brassens ou Léo Ferré ? 3 hommes dans un salon, c'est demain à 21h45.
Alors moi, je jouais Jacques Brel. C'est ouais. Laurence Tocqueur qui jouait Ferré. Et c'était Grégory Gadebois qui jouait Brassens magnifiquement. C'était un spectacle d'Anne Kessler.
Il faut dire ce que c'est. C'est la mythique interview de ces trois-là. Brel, Brassens, Ferré. Vous avez repris le texte, vous l'avez condensé et vous avez mis toute la saveur. Tout ça, ça se trouve sur le site internet de la Comédie Française. Également, on peut trouver beaucoup de théâtre. Il y a une collaboration très intense et très fructueuse avec France 5. C'est tous les dimanches à 20h50. Merci beaucoup Éric Ruff, administrateur général de la Comédie Française. Je rappelle le titre. La comédie continue, point d'exclamation. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
Je ne suis pas seul, je suis avec Margot Barallon. Bonjour Margot.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous nous parlez de séries, en général elles durent, mais là vous nous conseillez une mini-série sur Netflix qui s'appelle Unorthodox, pardon pour l'accent.
Non, c'était pas mal. Ouais. Mais il y a le TH, parce qu'il y a que 4 épisodes. Ouais. 4 épisodes que j'ai dévorés. Alors l'histoire, c'est celle d'une jeune femme estie qui habite à New York dans une communauté hassidique. Les hassidiques, vous savez, ce sont ces juifs orthodoxes qui vivent en autarcie, qui se coupent complètement du monde moderne. Ils ont leurs propres vêtements, leurs propres magasins et surtout des règles de vie très strictes, notamment pour les femmes. Elles sont souvent mariées très jeunes, n'ont pas le droit de faire grand-chose à part des enfants. Et vous allez voir les conseils qu'on donne à estie à avant son mariage, bah, ça respire pas franchement le bonheur conjugal.
La relation physique entre un homme et une femme est sacrée. Elle sert à fonder une famille. Et la famille, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est très simple. L'homme donne et la femme reçoit. Tu comprends ? Donc, il doit se mettre dessus et toi dessous.
Oh, dis donc le voilà. Cours.
Ouais, ça donne pas super envie. Hein. Alors, je vous ai passé l'extrait en version originale. Je sais pas si vous avez entendu. C'est pas de l'anglais hein, derrière, oui. Mais du yiddish. C'est la langue parlée par les hassidiques.
Alors, c'est une communauté, vous l'avez dit, très repliée sur elle-même. Évidemment, s'il y a une série, c'est qu'il y a une intrigue. Et j'imagine que l'héroïne ne va pas s'en accommoder comme ça.
Eh ben non, évidemment, la série commence en fait avec la fuite d'Estie. Elle quitte son mari, sa famille, elle part à Berlin, en Allemagne. Et tout l'enjeu de Unorthodox, ça va être de comprendre pourquoi elle est partie. Alors on pourrait croire que c'est à cause des règles strictes du mariage arrangé dont je vous parlais. Mais en fait, la réponse est beaucoup plus complexe que ça.
Tu t'es enfuie ?
Tu dis ça comme si j'étais en prison.
C'était pas le cas ?
Non. Mais oui, je suis partie. Sans dire à personne où j'allais.
Et pourquoi t'es partie ?
Vous n'êtes pas obligé de la mitrailler de questions.
C'est rien. Dieu avait placé trop d'espoir en moi.
Moi, c'est ça que j'ai trouvé passionnant dans cette série. Il y a à la fois un côté un peu thriller, avec une jeune femme qui s'échappe, qui est poursuivie par son mari, bien décidée à la ramener à la maison. Mais c'est aussi une vraie réflexion sur la foi, sur la notion d'appartenance à un clan, et rien n'est caricatural. Alors bien sûr, pour nous, le mode de vie de ces juifs orthodoxes, cette culture, c'est complètement archaïque. Mais la série montre aussi notamment le poids de l'histoire que portent les personnages, qui sont tous des descendants de victimes de l'Holocauste. Et puis, le fait que la vie en communauté, ça a quand même un aspect rassurant. D'ailleurs, quand Estie découvre la vie en dehors à Berlin, c'est souvent assez désarçonnant.
T'as jamais utilisé le moteur de recherche ?
Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Regarde, tu ouvres la fenêtre, là, et tu tapes une question dans la barre, juste ici.
Quoi comme question ?
Ce que tu veux.
Ok. Est-ce que Dieu existe? Il y a beaucoup trop de réponses.
Ouais, c'est toujours comme ça. Tu poses une question, mais c'est toi qui choisis la réponse que tu veux.
Voilà, choisir la réponse à ses propres questions, bah c'est peut-être ça, l'apprentissage de la vie.
Alors justement, question, est-ce que c'est une totale fiction ou une histoire vraie ?
Non, c'est une histoire vraie parce que la série est adaptée d'un livre autobiographique, un témoignage. Tout ce qui se passe au sein de la communauté hassidique est vrai, la fuite aussi. Il y a eu un énorme travail de reconstitution pour que tout colle au plus près à la réalité. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'il s'agit d'une série allemande qui a été tournée en majeure partie en Allemagne. Donc il a fallu recréer intégralement un quartier de New York en décor, engager des centaines de figurants. Et d'ailleurs, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le tournage, il y a un petit documentaire très bien fait, 20 minutes seulement, qui est disponible aussi sur Netflix. Vous pouvez enchaîner après la série.
Voilà, merci beaucoup Margot Barlan. Vous redonnez le titre de la série ?
Unorthodox, sur Netflix.
Merci beaucoup. Avant de retrouver notre deuxième indispensable du jour, Laurent Mariotte, un peu de musique, Vianney, le titre « Moi, aimez-toi ».
Coussin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessez-moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessez-moi. Comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page.
Salut Laurent Mariotte.
Salut Philippe Vandel.
Vous êtes avec nous, c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que vous avez fait tomber?
Pardon, non, je finissais de ranger mon lave-vaisselle, pardon, ça y est, j'arrête.
Vous avez pu faire ça à un autre moment quand même.
Oui, non, mais parce qu'il tourne, je fais beaucoup de lave-vaisselle en ce moment pour tout vous dire.
D'accord.
On cuisine beaucoup.
Ça s'entend, vous êtes en cuisine avec nous pendant cette crise. Vous présentez tous les samedis la table des bons vivants, ce sera samedi sur Europe 1 à 11h. Mais là, Laurent, c'est pas une blague, vous nous avez préparé une spéciale poisson d'avril.
Exactement, c'est plus que jamais le moment de manger du poisson. Philippe, on nous l'a dit assez souvent, enfant, hein, c'est bon, il y a du phosphore, il y a du zinc aussi. Et puis ça permet de soutenir nos pêcheurs, parce que nos pêcheurs, on l'entendait encore avec le spot de pub juste avant, ils continuent de partir en mer, ils nous rapportent du poisson. Le problème, c'est que les restaurants sont fermés et qu'en général, les pêcheurs, ils écoulent la moitié de leur production au restaurateur. Donc il faut bien en faire quelque chose de ce poisson, donc il faut qu'on l'achète.
Exactement.
On peut le trouver dans la grande distribution, chez les poissonniers, donc il faut y aller, quoi.
Exactement, ils ne peuvent plus exporter, mais surtout aussi les cours baissent. Donc c'est une bonne nouvelle.
Oui,
ça.
Alors absolument. Alors moi, je vous ai fait un petit casting de poissons d'avril bon marché. Il y a du maquereau, il y a du merlan et il y a du merlu, les 3M, comme je les appelle. Et effectivement, ce sont des poissons qui nous veulent plein de bonnes choses, mon cher Philippe.
Alors allons-y, par lequel vous commencez ?
Allez, un petit maquereau, tiens.
Ouais.
Vous parliez de Pierre Bénichoux tout à l'heure, qui aimait raconter des blagues sur les maquereaux.
Ouais.
Eh ben, écoutez, ce sera un hommage. Un maquereau printanier avec des asperges vertes et du fenouil. Des asperges vertes et du fenouil tout simplement taillées finement, assaisonnées d'huile d'olive et de citron. Ça fait une petite salade crue comme ça, printanière.
Comme ça, on la coupe en deux. Attendez, l'asperge, on la coupe en deux, on la fait même pas cuire. Bim, elle peut déguster comme ça.
Le mieux, c'est de la tailler dans la longueur, Philippe.
Ouais, je vois très bien, oui, bien sûr.
Avec un rasoir économe, très très finement, hein, très vraiment presque transparente. Hein, si on a une mandoline, c'est encore mieux, par exemple.
Ouais.
Mais ça se mange cru, ouais. Avec le fenouil, ouais. Huile d'olive et citron. Et le filet de maquereau, lui, vous l'achetez avec la peau, tout simplement, et vous le faites cuire à l'unilatéral, d'un seul côté, dans de l'huile d'olive. Et alors là, vous regardez bien ce qui se passe dans votre poêle. Quand la chair commence à être bien rosée, bien nacrée, ça veut dire que le poisson est cuit, donc on le retire. C'est à peine 3 minutes de cuisson à l'huile d'olive, ça. Donc là, c'est vraiment un plat qui est vertueux parce que c'est un poisson de pêche durable. C'est un poisson gras qui nous veut du bien. Il y a des oméga 3 et des oméga 6. Mmh. Et puis, il y a les crudités de cette petite salade d'asperges vertes et de fenouil, quoi.
Et puis, surtout, la pêche durable, en ce moment, comme on pêche moins, quand même un peu, il y en a de plus en plus et tant mieux. Le deuxième M, Laurent.
C'est un merlan pané. Un merlan pané maison, les enfants sont à la maison, ça va être l'occasion de leur rappeler, comme disait Coluche, que le merlan n'est, le poisson pané n'est pas né carré avec les yeux dans les coins. On va faire un vrai merlan pané à la maison, on achète les filets de merlan, alors ça c'est pareil, ça coûte pas cher, et puis c'est un poisson qui est doux, Philippe, le merlan, qui est presque un peu sucré, donc c'est pour ça qu'il plaît beaucoup aux enfants. On va le paner avec des flocons de pommes de terre, vous savez la purée machin chouette qu'on a peut-être en sachet à la maison.
C'est la purée mousseline, quoi. On peut le dire.
Ouais, exactement.
C'est presque au-delà d'une marque. C'est presque un terme générique maintenant.
Oui, vous avez raison. C'est comme le Walkman.
Ouais.
Donc, oui, absolument. Donc, ces flocons de pommes de terre, on va les utiliser pour paner le filet de merlan. Le filet de merlan, vous le passez dans du blanc d'œuf, ensuite dans les flocons de pommes de terre, et 1 minute par côté dans du beurre mousseux. Ça, c'est super. C'est un poisson pané maison express que vous pourrez refaire avec les enfants et leur montrer à quoi ressemble justement un poisson dans sa forme originelle. Et vous accompagnez ça de ce que vous voulez. Hein.
On rentre
dans la saison des légumes. Primeur, des pommes de terre vapeur par exemple, c'est très bien.
Ouais, et si on est vicieux, on peut le couper en rectangle aussi.
Oui, absolument. Oui, ou en carré même.
Ouais,
comme
exactement.
Vous voulez.
Alors, le dernier M, c'est quoi ? C'est le merlu.
C'est du merlu.
Alors,
merlu, pareil,
comment vous
ça,
faites,
c'est un poisson. Ah ben je le fais en tagine, là, tout simplement, en cocotte ou en moule à tagine, un plat à tagine si vous avez un plat à tagine à la maison, mais en cocotte ça marchera très bien. Vous faites d'abord revenir dans de l'huile d'olive des épices, des zestes de citron, de l'ail. Pareil, vous mettez tous les légumes que vous avez autour de vous, ça peut être des carottes, du céleri branche, du fenouil. Mmh. Vous faites cuire tous ces légumes avec un petit peu de bouillon pendant 25 minutes.
Ouais.
Et au bout de 25 minutes, Philippe, vous mettez vos tronçons de merlu. Hein, c'est des morceaux de merlu qu'on a acheté avec l'arête au milieu. Et vous les mettez dans cette cocotte avec les légumes, le bouillon et les épices et vous continuez 8 minutes à couvert.
D'accord.
Tout simplement. Et au moment de servir, du jus de citron et de la coriandre ou une herbe aromatique si vous en avez. C'est super bon. Ça coûte pas cher. Pareil, le merlu, c'est un poisson abondant et abordable qu'on pêche beaucoup dans le golfe de Gascogne. Donc ça fera du bien à nos pêcheurs aussi.
Et si on est avec des enfants, comment on fait que les arêtes, on les enlève? Ça se détache, j'imagine, après, avec la cuisson?
Oui, ça se détache très très bien. Absolument. Ouais, le merlu, c'est pas des arêtes gênantes, non.
D'accord. Ben, merci beaucoup. Macro, merlan, merlu, les 3M de Laurent Mariotte. Ça fait le 4e M. On retrouve vos recettes sur vos réseaux sociaux et laurentmariotte.com. On vous retrouve, c'est samedi à 11h pour la table des bons vivants sur Europe 1. Merci beaucoup Laurent Mariotte, à très vite.
À bientôt Philippe, bye bye.
Merci à tous pour cette émission, merci à tous les gens qui sont en régie, merci à tous les gens qui sont chez eux et qui fabriquent jour après jour et même matin après matin cette émission, parce que je peux vous dire qu'on se lève tôt. Nous on se retrouve demain à 9h30 pour Culture Média. Nous serons avec Arlette Chabot et la romancière Tatiana de Ronay.